Gaou et ses invités dans le Club de la Presse, tous les jours, de lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais j'ai dit pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement,
moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
De l'actualité, c'est dans Club de la Presse, votre émission de tous les jours, sauf le week-end. Merci de vous câbler sur la fréquence de Canal FM. Thomas était Corsida TV et à la commande technique. Grâce à Jérôme Akucha, vous nous suivez en ligne partout dans le monde via nos plateformes Facebook, YouTube et canalfm.com. On nous reçoit également à l'intérieur du pays sur Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Soukoulé, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niamtougou et Radio Courtoisie à Dapan. Ibn Radio et Radio Les Bénins reprennent aussi cette émission en ligne. Pour le débat de ce jour, nous avons autour de la table Francisco Napokoura du journal Tampa Express. Bonjour Francisco.
Bonjour cher Fousseni Saïbou. Bonjour aux chers auditeurs et auditrices de Canal FM, la nouvelle génération.
Merci Firmin Teko Agbo, journaliste et chroniqueur. Bonjour Firmin.
Bonjour Fousseni Saïbou, merci de m'avoir invité.
Donc, je suis Fousseni Saïbou. Voici le débat. C'est le dernier rendez-vous de la semaine, occasion pour nous de revenir sur les temps forts de l'actualité de cette semaine. Mais d'abord, Francisco Napokoura, on nous a signalé ce matin une situation à la frontière avec le Burkina Faso, une affaire de taxes qui perturbe la circulation des marchandises. Vous êtes aussi au courant de cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut en savoir?
Oui, cher Fousseni Saïbou, depuis la semaine dernière, précisément le samedi, les conducteurs d'engins lourds, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément titans, c'est-à-dire les semi-remorques, qui transportent les marchandises à destination du Burkina, Niger, Mali, et donc ont cessé d'activité, ont bloqué les frontières, et pour cause, l'État burkinabé a réévaluer la valeur du laissez-passer. Donc, autrefois, le laissez-passer dont l'arrêté datait de 1996 coûtait 2000 francs CFA, en aller simple.
D'accord.
Et donc, depuis le 25 octobre dernier, un nouvel arrêté du ministre des Finances du Burkina Faso a monter la valeur du laissez-passer à 30 000 francs CFA.
Donc, c'est énorme.
C'est énorme. Et c'est payé par les voitures des autres pays, sauf le Burkina. Donc, ce qui fait que les conducteurs dans leur ensemble, les syndicats, ont décidé de ne plus rouler. Donc, les queues de camions, c'est-à-dire du côté togolais, c'est ce qu'on observe le plus. Hier, c'était les queues ont quitté Saint-Cassé à Kanté. Entre Kanté et Kara, c'est pas loin. Donc, ça veut dire que bientôt, on va peut-être arrêter de charger les camions depuis le port de Lomé, puisque rien ne bouge et aucune lueur d'espoir que dans les minutes ou les heures qui suivent, la situation va se décanter.
D'accord. La situation est déjà très compliquée au niveau de la frontière entre le Niger et le Bénin. Voilà que cette nouvelle affaire vient tout compliquer.
Oui, effectivement. Cette nouvelle affaire vient compliquer beaucoup de choses. J'ai eu le Niger ce matin. Même le Burkina, hein, je suis en contact avec... que ce soit les transporteurs ou des opérateurs économiques. Et le Niger, c'est grave ce qui est en train de se passer là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il manque de tout, puisque le Bénin, la frontière est enfermée. Donc, entre-temps, il faisait des déclarations en passant par le Togo, c'est-à-dire que du port de Cotonou, on charge, les camions passent soit par Toum, pour reprendre la nationale numéro 1 à partir de Notchen, ou soit rentre par Ketaou et Kara, et puis reprendre la nationale jusqu'à Saint-Cassé. Et donc maintenant, arrivé au Burkina, il prolonge jusqu'à l'entrée de Ouagadougou, et avant de prendre la route de Kaya, donc avec plus de 2000 kilomètres de plus. Et là aussi, il faut aller par escortage et militaire. Et donc, maintenant, avec ce qui vient de s'ajouter, ça veut dire que nos amis du Niger vont encore beaucoup en souffrir. Nous avons d'ailleurs déployé beaucoup d'articles pour le prochain numéro, numéro 47 de Tampa Express, qui va sortir le mardi prochain. Et c'est un article qui même donne des pistes de solutions pour que même notre diplomatie puisse, n'est-ce pas, se saisir de certaines situations qui pouvaient améliorer disons arranger le Togo, parce que le retour de la normalité entre le Niger et le Bénin, ce n'est pas du tout du jour au lendemain, parce que même si la CEDEAO lève les sanctions, et ça va être difficile, comme le Togo s'affiche déjà comme un pays partenaire, n'est-ce pas, du Sahel, donc c'est au Togo disons, de discuter, de s'entendre avec le Sahel. Ils sont déjà trois pays. Que pour aller au Niger, en quittant le port autonome de Lomé, il faut passer par le Burkina. Alors que c'est une partie du territoire burkinabé, donc qui est en jonction avec notre territoire, c'est-à-dire à partir de Kpengdial, qui est en proie à l'insécurité. Oui. Donc, imaginez que les trois armées, c'est-à-dire que l'armée togolaise et l'armée burkinabé et l'armée nigériane, se mettent ensemble. Je crois que même notre problème au niveau des savanes serait réglé. Et là, ça va beaucoup faciliter les échanges, puisque moi, personnellement, j'ai fait ces routes au moins à trois reprises. Et donc, je sais ce que c'est, et ce qu'on dit, ce qu'on propose comme solution, ce n'est pas, disons, de la théorie, ce n'est pas inventé, mais c'est du concret.
D'accord. Nous attendons impatiemment cet article dans Tampa Express. Firmin Tekou Agbo, cette décision aurait pu faire l'objet d'un dialogue préalable entre les deux États, n'est-ce pas?
Oui, peut-être les Burkinabés se...
Le micro ne marche pas encore, oui. Allez-y.
C'est bon.
Oui, c'est bon, allez-y.
Parfait, merci. Peut-être les autorités burkinabées se diraient qu'elles n'ont pas besoin de dialoguer avec les autorités togolaises, puisque c'est une affaire interne. Et peut-être elles seraient en droit de procéder ainsi. Mais la question est de savoir si ces autorités avaient jugé cette décision opportune. Voilà. C'est la question qu'elles devraient se poser. C'est bien, peut-être... Elles ont besoin d'argent, je parle des autorités. Elles ont besoin d'argent. surtout sur le plan sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, elles ont beaucoup besoin de matériel pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et on voit tous les résultats qu'ils appuient sur les réseaux sociaux. Les villages qu'ils, je ne dirais pas qu'ils déciment, mais ces terroristes qu'ils déciment dans des villages, c'est une question de moyens. Donc, elles se disent, elles ont besoin d'argent. Alors, il faut passer par où est-ce qu'il faut trouver de l'argent. Donc, il faut peut-être augmenter des taxes, il faut augmenter des impôts, il faut créer d'autres richesses pour pouvoir gérer la question sécuritaire.
Et seulement donc, que c'est faramineux. Hein. Ils ont quitté de 2 000 à 30 000.
Vous savez, ce que disait Firmin tout à l'heure, c'est très important parce que d'abord, l'État burkinabé a appelé à la solidarité nationale où les gens devaient contribuer, n'est-ce pas, à l'effort de guerre. Et même cette situation, nous l'avons vu venir, que le Burkina allait, n'est-ce pas, procéder, n'est-ce pas, c'est-à-dire à la collecte des sous d'une manière ou d'une autre. Puisque quand vous prenez l'escortage des véhicules, par exemple, ici au Togo, on fait l'escortage des engins. Mais quand vous voulez demander l'escortage, par exemple, de Lomé à Saint-Cassé, vous n'êtes pas à moins de 1 600 000 pour peut-être maximum 4 camions. N'est-ce pas? Si vous avez 4 camions semi-remorques à vouloir escorter, donc demander l'escorte militaire de Lomé à Saint-Cassé, vous devez payer 1 600 et quelques. OK? Maintenant, quand nous allons prendre maintenant un pays comme le Burkina, qui est, disons, qui n'a pas, c'est-à-dire à qui on n'a pas demandé d'escorter, mais a trouvé la nécessité, parce que sans ça, il n'y aurait pas de ravitaillement. Donc, ce pays a besoin de moyens. Soit on devrait demander la contribution directe, par exemple, si vous voulez que votre camion soit escorté, voici le montant. Parce que là, ça demande beaucoup de matériel parce qu'il faut aussi le matériel pour accompagner, il faut des hommes qu'il faut encourager, il faut également l'appui aérien pour pouvoir, n'est-ce pas, et dissuader et disons intervenir en cas d'attaque et terroriste. Donc voilà la situation. Donc, mais on aurait pu aller par d'abord un dialogue, sachant que c'est un corridor qui alimente beaucoup de pays. Donc une concertation entre les différents pays et qu'ils s'entendent, d'accord, pourquoi pas, on peut même prélever des taxes au port autonome de Lomé ici pour le compte du Burkina, puisque, je dis, l'escortage, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Je vous donne, en temps régulier, en temps normal au Togo, si vous voulez faire escorter un petit convoi, le minimum de factures qu'on vous adresse, c'est 1 600 000 et quelques. Donc, et quand vous allez voir un pays qui a des difficultés économiques et qui doit à chaque fois faire escorter, convoyer des centaines de camions par jour pour le compte des pays tiers, c'est-à-dire que ces camions vont de l'autre côté. Chose ou soit même à l'intérieur vers les bobos, il faut forcément de l'escortage. Donc, ce n'est pas quand même les choses, mais seulement c'est la manière. C'est la concertation qui n'a pas suivi.
D'accord, mais on peut comprendre cette décision du Burkina, vous l'avez dit, le pays qui est, enfin, certains partenaires qui ont retiré leur aide, donc cela peut se justifier aussi.
Oui, bien sûr, le problème est simple, le Burkina a besoin d'argent, c'est tout, mais sauf qu'il manque de méthode. En réalité, ils auraient pu faire appel à une certaine méthode, on ne serait pas dans cette situation. Vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être ils auraient pu asseoir un certain dialogue avec le Togo pour pouvoir gérer la situation, pour ne pas vivre, pour que les camionneurs ou les chauffeurs ne vivent pas ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Cela est en train de pénaliser leur population. Aujourd'hui, la population est en train de les soutenir. Mais du moment où, le jour où il y aura crise sociale, les populations ne vont plus les soutenir. C'est là où je reproche un certain nombre de choses à ces militaires. Peut-être ils croient qu'ils peuvent tout gérer avec la force. Ce n'est pas possible. Il y a de la politique, il y a de la diplomatie. Je pense que c'est cette méthode-là qui manque à ceux qui dirigent le pouvoir. Si ça continue comme cela, il y aura une crise sociale parce qu'il y a des vivres, des médicaments. physiquement qui quittent le Togo pour aller dans ce pays-là. Ils vivront, ces populations vivront la même chose que les populations nigériennes sont en train de vivre aujourd'hui. Moi, j'ai des amis qui sont au Niger, des amis qui ont des frères au Niger et qui les appellent tous les jours, qui disent qu'ils vont revenir au Togo parce que la situation leur est insupportable en ce moment. Il y a quelqu'un qui a une moto et qui dit, et c'est mais ça c'est la semaine dernière, la personne a dû vendre sa moto pour chercher encore d'autres sous, ajouter à cela, la personne va rentrer. Donc c'est des situations très difficiles. Alors, Francisco Napoko a parlé de la diplomatie togolaise. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est cité comme médiateur. Donc je pense qu'avec... la sagesse du président ou la sagesse de la diplomatie togolaise, on pourrait trouver une situation ou je sais pas une solution à ce qui prévaut actuellement au niveau de la frontière Togo-Burkina Faso et aussi à ce qui prévaut au Niger fondamentalement parce qu'il y a beaucoup de marchandises qui devraient transiter par le Bénin pour aller au Niger, mais jusqu'à présent c'est le statu quo et c'est la galère, c'est la souffrance cruelle que les populations de la sous-région ou des populations de la sous-région sont en train de vivre.
Donc, comme on le dit, la liberté a un prix.
Ah, effectivement,
la liberté a un prix. Vous voulez être libre, vous voulez être souverain,
ben,
vous voulez
quand même,
vous
quand
devez
même
assumer cette responsabilité là. Voilà. Mais je pense que tu ne se règles pas militairement. C'est le problème. Si tu ne se règles pas militairement, d'accord, aujourd'hui on se dit on est soutenu par une population, on se dit soutenu par des peuples, mais jusqu'à quand?
C'est peut-être ce que le colonel, plutôt le capitaine Thomas Sankara a vécu comme conséquence. À un moment donné, les populations étaient affligées.
Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, même pas Thomas Sankara, même Sibanous Olympio. Sibanous Olympio, c'est quelqu'un, moi je me rappelle, c'est un homme politique qui l'a dit, mais Sibanous Olympio, par exemple, avait une certaine ambition pour le pays, pour le Togo. Il voulait construire la Suisse de l'Afrique. Même s'il fallait marcher, c'est ce que le politicien me disait, même s'il fallait marcher sur les hommes pour pouvoir réaliser cette ambition-là, il était prêt. Alors qu'il construisait la Suisse de l'Afrique pour qui? Pour les Togolais. Mais s'il fallait marcher sur les Togolais. Donc, c'est à ce niveau-là qu'ils commencent pas à pêcher. Donc, ils oublient qu'ils travaillent pour une certaine population. Ils oublient qu'ils travaillent pour un certain peuple. Ce que Thomas Sankara avait comme ambition, c'était noble. Mais il avait manqué de méthode. Donc, aujourd'hui, c'est une question de méthode. En réalité, le problème de l'Afrique, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un problème de méthode. C'est un problème d'organisation. C'est un problème de vision. Nous ne savons même pas où nous sommes en train d'aller. On est toujours dans l'émotion et dans un certain populisme.
D'accord. Francisco?
Non, mais je dis que vraiment, il faut que la CEDEAO lève ses sanctions contre le peuple frère du Niger. Parce que c'est inhumain. C'est vraiment inhumain ce que la CEDEAO fait. Et je dis, et je le répète, que même la Russie n'a pas fait ça à l'Occident. Quand la guerre a éclaté, les gens criaient, la Russie continuait de livrer du gaz à l'Allemagne et à d'autres pays. C'est eux-mêmes qui sont partis saboter le gazoduc, le Nord Stream 1. C'est ça qui a fait cette rupture. Ça veut dire que la France, qui donne les injonctions au président africain, doit revenir sur, ses pas, et que la CEDEAO lève vraiment ses sanctions contre les pays frères.
À ce niveau, la CEDEAO même doit se rendre à l'évidence aujourd'hui. Elle doit se rendre compte qu'elle est maintenant fragilisée. Moi, je ne suis pas de ceux qui soutiennent les coups d'État. Mais jusqu'à dire que nous allons intervenir militairement contre un pays frère et membre, moi, je me dis que là, la CEDEAO, elle a exagéré. Alors, à ce niveau-là, elle devrait savoir que elle a exagéré, elle a péché, elle ne peut plus avoir l'adhésion de tout le monde. Alors, si vous ne pouvez plus avoir l'adhésion de tout le monde, vous devez commencer par repenser votre politique, changer de stratégie pour pouvoir réintégrer ceux-là qui se sont sentis exclus. D'accord. Je pense qu'avec cette méthode, la CEDEAO va revenir. Mais le président togolais, bon, c'est lui qui est cité, c'est lui qui est aujourd'hui, c'est lui qui est au centre aujourd'hui. Donc je pense qu'il peut, il a peut-être cette baguette magique pour pouvoir convaincre la CEDEAO pour qu'elle change de stratégie, elle revienne. Et puis la CEDEAO doit savoir que les temps ont changé. Vous savez, de par le passé, lorsque la France, Chirac décidait, les Yadema exécutaient. Vous imaginez, lorsque Chirac décidait, les Yadema exécutaient. Il n'y avait pas de contestation. Les Chirac ont imposé des premiers ministres au pays de la sous-région. On se rappelle de ça qu'on a banni en Côte d'Ivoire en 2006. C'était les Chirac qui avaient imposé cela à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la CEDEAO, la France peut décider. Mais Fonds national peut se dire, je ne m'aligne pas sur cette décision. Qu'est-ce que la France peut faire aujourd'hui? De par le passé, la France pouvait sanctionner. Mais aujourd'hui, la sanction sera un peu difficile.
D'accord. Merci. Nous quittons ce sujet. Fin de la première tranche des congés détente. L'heure est à l'évaluation de cette première étape. Tampa Express revient sur cette nouvelle réforme dans l'éducation au Togo et titre Congé détente, la nouvelle innovation du ministre Komolan de l'Ikokoroko. Le journal révèle quelques inconvénients de cette réforme. Francisco Napokoa.
Oui, effectivement, c'est une innovation qui a été intégrée à quelques jours de la rentrée. Et une innovation que nous apprécions, que nous apprécions beaucoup, et dans laquelle il y a plus de bénéfices que d'inconvénients. Ici, c'est que on a laissé passer la rentrée avant d'annoncer les congés. Et puis, quand vous voyez, c'est au moment où les congés sont arrivés, c'est en ce moment précis que les enfants, comme on le dit, le match a commencé vraiment par chauffer. Donc, et puis, il y a eu ce coup d'arrêt qui, normalement, devait permettre à chaque parent de reprendre les enfants, de les encadrer et pour une reprise, donc un repos et repos ponctué quand même d'apprentissage. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais cela a beaucoup de bénéfices parce que on est en train de rentrer dans l'harmonisation générale des congés. Vous allez voir dans le pays, nous sommes dans un même pays. Il y a certains qui disent qu'ils suivent le cursus français, qui prennent des congés pendant que les nationaux sont en train d'aller à l'école. Donc, s'il y a des amitiés ou des parents qui ont des enfants dans des différences, vous imaginez que la famille, une seule famille, qui a des enfants dispersés dans les systèmes. Donc, les enfants ne peuvent même pas se retrouver aussi en congé. Et maintenant, quand on prend au niveau des enseignants, ça a aussi beaucoup de bénéfices parce que c'est un temps pour l'enseignant de préparer, les fiches, aussi de se reposer parce que les statistiques montrent que au Togo, les statistiques au Togo montrent que les enseignants, disons, meurent tôt. L'espérance de vie des enseignants est réduite. Et puis, avec des maladies comme la cécité surtout. Donc, c'est un moment également pour l'enseignant de se requinquer, de se reposer et de préparer ses fiches pour une nouvelle heure. Donc, c'est la première édition. D'accord. Donc, à partir de l'année prochaine, déjà, les gens savent, les parents savent que désormais, nous aurons deux congés de détente au cours de l'année. Et donc, les gens vont se préparer à mieux les affronter. Ce qu'il y a, nous avons suivi également ces congés. Il y a des établissements qui ont tenté de regrouper encore les enfants pendant les congés dans les classes. Mais ça, je crois que dès les premiers jours, beaucoup ont reculé parce qu'ils ont senti que l'épée de Damoclès du professeur Kokoroko est sur leur tête. Donc, voilà au moins une discipline qui s'installe et qu'il faut suivre et mesurer les impacts et les années à venir.
D'accord. Un mot filmé pour sortir de ce sujet.
Oui, bien évidemment. En tout cas, cette décision, c'est une décision entre guillemets française. C'est-à-dire, on s'est inspiré de ce qui se passe en France, dans le système français, et ils appellent ça à congé de tout ça. Et je pense que pendant l'année prochaine, il y aura encore un congé comme cela. Alors, oui, les congés normaux des PAC. C'est la France qui s'impose comme cela. Moi, je ne suis pas contre. C'est cette décision, dans la mesure où ça permet aux élèves d'aérer un peu leur esprit, pouvoir revenir et bien étudier. Parce qu'en Afrique, on a un système tellement bourratif. Mais s'il faut l'aérer aujourd'hui, je pense que ça pourrait nous être utile. Bon, mais vous savez, Moi, je me dis qu'il faut que le débat aille un peu plus loin. Moi, je ne parle pas de congé, mais je me dis tout ce que nous faisons, nous copions l'Occident. Et aujourd'hui, on reproche à l'Occident ce que nous appelons aujourd'hui le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est quoi? C'est la nouvelle forme de la colonisation, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à l'Occident? On reproche à l'Occident de nous voler matériellement, de nous voler financièrement et de nous voler en termes de ressources humaines. C'est ce qu'on reproche à l'Occident. Mais je vais vous donner un exemple. Vous savez combien d'écoles étrangères que nous avons au Togo? Nous avons des écoles étrangères et nous avons des milliers de nos enfants qui vont dans ces écoles étrangères, du CPE jusqu'en terminale. Et quand vous voyez les cours de ces écoles étrangères, vous ne verrez aucun cours qui concerne le Togo. Ça veut dire, nous offrons notre espace aux Occidentaux, venez coloniser nos enfants, venez leur donner, inculquer votre culture à nos enfants. Et ces milliers d'enfants, lorsqu'ils arrivent en terminale, ils obtiennent le bac, ils vont dans ces pays occidentaux, ils continuent leurs études, les poursuivent, ils s'y installent, ils y travaillent, et ils servent l'Occident, et ils contribuent à construire ce pays. Alors qu'en ce moment-là, on a besoin de ressources humaines. Ça veut dire simplement que la colonisation que nous sommes en train de, que nous avons toujours dénoncée, nous aujourd'hui, facilement, nous ouvrons la porte à l'Occident, venez prendre nos enfants, éduquez-les selon votre culture, éduquez-les selon votre système, amenez ces enfants chez vous, alors que nous, en faisant cela, nous créons un vide. On se dit souvent que l'Afrique, c'est un continent d'avenir, que nous, Africains, on a ceci, on a cela. Moi, je me dis que l'Afrique, c'est un continent d'avenir, mais pas pour les Africains, pour les Occidentaux, parce que la plupart de nos enfants vont régulièrement dans ces pays-là, et ils les servent, et qui vont construire l'Afrique pour nous. On a un problème. Il faut que... Moi, je pense que ce problème-là est sérieux, dans la mesure où le gouvernement n'y pense pas encore. C'est-à-dire, nous donnons naissance à nos enfants sur nos territoires. Quelqu'un d'autre vient les coloniser et les amener chez eux. Okay, comment on peut appeler ça? C'est l'esclavage moderne. Nous donnons de l'argent, et cet argent qu'on perçoit, c'est-à-dire ces écoles étrangères, la plupart de ces sous, ça va où? Ça va dans ces écoles. Ça va dans ces écoles et ça va dans ces pays-là. Il faut qu'on revoie notre système éducatif. Sinon, nous allons éduquer nos enfants. Non, nous allons donner ça à nos enfants. Et ces enfants-là, d'autres vont venir les voler pour nous, pour aller construire d'autres pays.
Et ça va ramener l'Afrique en arrière.
Vous savez, tout ce qu'il dit, c'est une question, une question d'offre. Qu'est-ce que le pays offre à ses enfants? D'accord, il y a ça, parce que aujourd'hui, même ceux qui vont dans le circuit normal national, beaucoup ont envie de partir, parce que au bout du cursus, ça, l'offre n'existe pas. On ne fait pas de recrutement des salariés et autres, et les entreprises ne fonctionnent pas bien, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de marché pour pouvoir embaucher des gens. Et donc, quand vous voyez tout ça, tout le monde pratiquement, sauf certains, ont envie de partir. Et il faut voir ce que la mer draine et tous les jours vers les îles. Donc, c'est une question de gouvernance qui s'impose à nous. Donc, il va falloir que les gouvernants tiennent compte, n'est-ce pas, du besoin réel des populations, et que dans l'intérêt des populations, les gens gouvernent. Et c'est ça qui va faire que le nationalisme va revenir un peu, et que les gens restent sur place, qu'ils ne veulent pas aller payer cher une école privée. C'est pourquoi, c'est pour partir, et donc c'est parce que nous ne donnons pas les moyens, et les gens là ne veulent pas que leurs enfants prennent le bateau ou bien rentrer dans les traits d'avion pour dire que je pars en Europe, autant, ou bien en Occident, autant le mettre dans le système, dans leur système déjà qui est existant ici, d'accord, pour que à la fin du cursus, que l'enfant ait son visa de façon régulière pour partir. C'est l'immigration choisie. Ils le font. Nous aussi, si nous sommes organisés, on peut aller chez eux, aller chercher les talents pour revenir. Mais écoutez, il ne faut pas prendre toujours que la manière dont les gens sortent Il faut voir la population africaine, elle dépasse largement. Donc la manière dont les gens sortent, hein, que c'est une mauvaise chose. Non, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'il se peut que pendant que les autres viendront gouverner ici, nous on gouvernera peut-être.
Ce que je dis est très simple. Il suffit simplement de revoir notre offre de formation, de la rendre beaucoup plus attrayante. Pourquoi on va dans ces écoles étrangères? Parce qu'on se dit que là-bas, on forme mieux que ici, par rapport à notre système éducatif qui a été mis en place depuis des années. Mais non, regardez, ce que je dis est très simple. Vous voyez un Togolais, un petit Togolais, de peut-être 52 ans, qui va dans une école étrangère jusqu'à obtenir le bac. Il ne connaît rien sur le Togo, c'est ce que je dis. Il ne connaît pas la culture du Togo. Il n'a aucune histoire du Togo dans ses gènes. Il n'a rien en ce qui concerne la culture du Togo. Il ne connaît pas la géographie du Togo. Il ne connaît pas les coutumes du Togo. Il ne connaît pas les cultures du Togo. Il ne connaît pas les chefs traditionnels du Togo. Mais ce petit enfant est né ici. Mais vous lui posez des questions en ce qui concerne la France, en ce qui concerne le Royaume-Uni, en ce qui concerne les États-Unis, il sera à même de tout vous débarrer. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Il faut former des patriotes, des gens qui ont en eux l'histoire de leur pays. Et c'est en cela qu'ils auront la volonté de construire, d'apporter quelque chose de sérieux à ce pays-là. C'est-à-dire, sur le territoire, nous formons des Anglais qui sont arrêtés des Togolais. Nous formons des Américains qui sont arrêtés des Togolais. Nous formons des Français qui sont arrêtés des Togolais, qui connaissent mieux l'histoire de ce pays que l'histoire de leur propre pays. Aujourd'hui, pour développer un pays, il faut le civisme et le patriotisme. Sans cela, difficile d'aller loin.
D'accord, merci Firmin Teko Agbo. Nous passons à un autre sujet. La décision du procès Madjoul Ba est tombée tard dans la nuit du mardi 7 novembre après les plaidoiries des avocats. Le général Abalo Kadanga, vu par certains comme le principal coupable, a finalement écopé de 20 ans de prison. À l'issue de ce procès, on retient que le chauffeur du feu Madjoul Ba aurait joué un rôle dans l'assassinat de son patron. Lui écope 15 ans de prison. Procès, Madjoul Ba titre le canard indépendant, déception, le mobile du crime inconnu, un procès tronqué, un tribunal militaire sur sellette, liberté titre, affaire, Madjoul Ba, 20 ans de prison pour le général Abalo Kadanga, comment le système Fort Gnassingbé a dévoré ceux qui ont œuvré à sa pérennisation. Et puis, le télégramme du Togo qui titre, justice, Togo justice, la roue a tourné. 20 ans de prison pour Kadanga, Kwaka va-t-il en rire ou en pleurer? Ah, il y a également Togo Matin qui titre « Procès Madjoul Ba, épilogue d'un processus long et minutieux ». Alors, Francisco Napokora, en suivant les commentaires sur les réseaux sociaux, on a l'impression que certains ou beaucoup sont restés sur leur soif. Est-ce que c'est pareil à votre niveau?
Bon, c'est tout à fait normal que les gens restent sur leur soif, mais nous, à notre niveau, en personne avisée, et si nous allions titrer, on aurait titré un procès pour des initiés, parce que depuis le début de ce process, on sentait, c'est-à-dire quand on connaît un peu comment fonctionne le système, et on ne peut pas avoir mieux ou bien plus que ce qu'on a obtenu. Parce que prenons par exemple le début des enquêtes. Le début des enquêtes a été en quelque sorte bafoué, d'accord, et jusqu'à la mise en place des commissions et voire après, plus tard, du tribunal militaire. On peut dire même un tribunal spécial. Donc, alors que si toutes ces institutions existaient bien avant, on n'aurait pas mis autant de temps pour aller au concret. Donc, les gens sont restés sur leur soif parce que ils n'ont pas senti les éléments qui ont concouru, n'est-ce pas, à la condamnation de ces différentes personnes. Et donc, est-ce qu'ils sont, condamnés pour complicité, et pour être commanditaires, être assassins? Personne ne le dira, puisque nulle part ça n'a été clairement dit. Donc, quand vous voyez l'avant-dernier jour de ce procès, vous sentez que, tout portait à croire que il n'y a pas un assassin qui allait venir témoigner ou n'existe plus, puisque on parlait plutôt de commanditaire
et donc de complice
et de complice. Et donc, ce qui aussi a peut-être plus renforcé, n'est-ce pas, les tribunaux, mais là aussi il faut aller vers la légalisation de ces pratiques, puisque ça se fait au Bénin et au Sénégal. C'est les oracles qui, n'est-ce pas, et ont pu peut-être à leur niveau donner des précisions au tribunal par rapport à ceux qui ont, n'est-ce pas, participé à cet assassinat. Sinon, si nous, par exemple, qui nous intéressons à la chose des enquêtes, surtout criminelles, nous avons suivi beaucoup de films de ces polices scientifiques. Mes romans préférés en matière de crime, c'est Agatha Christie, d'accord. Et puis, connu un peu le fonctionnement des armées, le comportement de certaines personnes, on aurait voulu savoir pourquoi est-ce que l'arme du colonel, c'est-à-dire son Beretta, et disons un pistolet personnel, est resté dans sa voiture, pas avec lui, et que un chauffeur quitte le service et parte avec la clé, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu remettre la clé à son commandant. Non, c'est pas sa voiture. Donc il y a tout ça qui font que c'est compliqué pour savoir ce qui s'est passé. Comme je le dis, les derniers jours ont prouvé que personne ne pourra témoigner que voilà, c'est moi qui ai tiré, ou montrer que voilà, c'est celui qui a tiré.
D'accord. Beaucoup d'interrogations firmaient, notamment sur le mobile de l'assassinat.
Oui, je me demande si c'est moi qui ai un problème de vocabulaire. Parce que quand vous voyez les chefs d'accusation, on parle de complot contre la sûreté, la sécurité intérieure. Mais ça veut dire quoi en réalité? Je pense que c'est dans ça, on parle de coup d'État. Mais dans ce procès, est-ce qu'on a vu les indices? Est-ce qu'on nous a déballé des choses qui devraient nous amener à dire que peut-être il y a eu tentative de coup d'État? Moi, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment cette tentative. La tentative, c'est quoi? Elle veut dire qu'il y a un commencement d'exécution.
Non, vous avez dit, répétez la chose, que le chef d'accusation comportait
la sécurité intérieure de l'État.
Oui. Ça peut-être a échappé aux gens lors des débats quand, le général a reconnu que lui-même, il avait fait passer des tracts au sein des garnisons pour, en représailles au lynchage médiatique dont son collègue Massina serait l'auteur. Massina a dit il n'est pas auteur de lynchage médiatique vis-à-vis du général. Donc, quand le général même reconnaît que c'est lui qui a remis les moyens à un certain, Ali. De passer les tracts au sein de l'armée, l'objectif, ou bien ce que les juges ont conclu, c'est que cet acte pouvait amener des subversions au sein des camps. Donc, il peut être à l'origine, n'est-ce pas, voilà, d'une
famille.
Voilà. C'est comme ça, et c'est ça qui a conclu, qui a scellé aussi une partie de.
D'accord.
Il y a ça, et puis par rapport à l'assassinat de Madjouba, c'est ça, colonel Madjouba, je me demande ceux qui l'ont assassiné, pourquoi l'ont-ils assassiné? Parce qu'on devrait savoir ça aussi. Pourquoi on a assassiné cet officier supérieur de l'armée togolaise? Pourquoi? Parce qu'on dit, même si on trouvait aujourd'hui le coupable, on dit, c'est celui-là qui a tué Madjouba. Pourquoi l'a-t-il tué? Si on ne sait pas, on ne maîtrise pas le mobile fondamental pour lequel il a été assassiné, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et ça veut dire que peut-être d'autres ne sont pas en sécurité. Ça veut dire que du jour au lendemain, on peut se lever et venir te tuer sans mobile. Alors, est-ce que cette histoire de atteinte à la sûreté de l'État ou contre la sécurité intérieure de l'État et l'assassinat, est-ce qu'il y avait un lien entre les deux? On devait savoir ça. Arrêter le procès devrait nous éclairer fondamentalement. Mais peut-être, moi je me suis dit, peut-être, comme c'est une affaire de militaire, donc ce n'est pas tout contre des balles, et publiquement. Et donc, c'est là où je me suis dit, d'accord, donc on va s'en contenter. Mais toujours est-il que il n'y a pas eu suivi. Des avocats dénoncent l'absence de preuves, l'absence de certains nombre d'éléments qui pouvaient conduire à la condamnation de ces prévenus ou de ces accusés-là.
D'accord. Donc, voilà pourquoi nous disons qu'il y a beaucoup d'interrogations. Mais quoi qu'il en soit, nous avons vu l'artisan à l'œuvre. Le tribunal militaire vient d'avoir affaire à son tout premier dossier, une patate chaude, si on peut le qualifier ainsi. Alors pour vous, est-ce que c'est une sortie réussie, Francisco Napokoura?
C'est une sortie réussie, peut-être pour ceux qui, disons, ont joué la mission, mais tantôt, je suis reconforté lorsque Firmin me dit, sinon nous dit aujourd'hui, que peut-être d'autres sont en insécurité, c'est-à-dire qu'il oublie que lui-même, il fait partie de ces autres-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça, parce que dans un système où on ne comprend rien, tout le monde, personne n'est en sécurité. Tout le monde est en sursis, même en marchant dans les routes. C'est que peut-être l'heure n'est pas arrivée, et c'est pourquoi. Maintenant, est-ce que c'est une mission, disons, remplie. C'est peut-être inachevée. Et on est en train de voir que peut-être dans les prochaines années, parce que Pacha, il y a quelques années, puisque je dis que ce n'est que, disons, la continuité de ce qui s'est passé avec le député et Pacha, qui est en prison, qui est en train de finir, peut-être au moment où celui-ci sera en train de finir, un autre ira le remplacer. Donc, mais c'est très dommage d'en arriver là, parce que tout ce qui a été dit au cours du procès et les éléments que les gens ont demandé, qui ont été renvoyés, sinon au fond, et que ce fond n'a malheureusement pas connu de discussion comme il se fait, et c'est au juge et tous les acteurs de se poser la question, parce que quand vous vous écartez du code pénal, le code de procédure pénale, quand vous écartez de ça, quelle que soit l'enquête, quel que soit le jugement que vous ferez, vous n'allez plus jamais dormir en paix. C'est-à-dire que vous allez toujours être dans l'attente, vous dire, j'ai commis une erreur à tel niveau, j'ai commis une erreur là. C'est pourquoi on le dit, quel que soit le problème, il faut respecter les droits des différentes parties, les impliquer, les impliquer déjà aux enquêtes préliminaires, et pendant ce temps on peut corriger beaucoup de choses avant que les séances plénières n'arrivent, et là tout le monde part avec, disons, une joie d'avoir accompli un travail honorable.
D'accord, nous sortons avec vous, Firmin.
Oui, c'est-à-dire, quand je parlais d'insécurité, même bien avant de reparler de l'insécurité, mais je me dis, quand on parle de complicité d'assassinat, en droit, quand on parle de complicité, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a l'élément matériel et l'élément intentionnel. Est-ce que le général Félix Abalo Katanga, il avait eu matériel, il avait participé matériellement à la commission du crime? Il a cessé de vous participer matériellement. Peut-être vous êtes de loin. Et la deuxième chose, est-ce que intentionnellement, il avait participé à la commission de ce crime-là? Mais s'il avait participé intentionnellement, pourquoi l'aurait-il fait? C'est ça aussi fondamental de la science. Parce qu'en réalité, ce qui se passe est sérieux. Ça veut dire que c'est un chef corps, un homme de confiance du chef de l'État, du Togo, qui a été froidement assassiné dans son bureau. Celui en réalité qui devait faire partie de la sécurité du président de la République, son homme de confiance, qui a été assassiné comme cela. Et on ne voit rien qui élucide fondamentalement les raisons qui ont amené à le tuer ou à l'assassiner. Le chef de l'État devrait s'en inquiéter. Moi, je me dis, il devrait s'en inquiéter. Celui-là qui faisait partie de vos hommes de confiance, on l'a assassiné comme cela. Et on dit que c'est celui-là aussi a participé, c'est-à-dire en termes de complicité, l'élément matériel et l'élément moral. Alors, comment, pourquoi, si c'est celui-là qui a aussi participé, pourquoi l'a-t-il assassiné? Pourquoi l'a-t-il assassiné? Moi, je pense que c'est des questions auxquelles le président de la République devrait chercher à... Il devrait chercher à éclairer. Parce que c'est le président du Togo. Vous imaginez? Le président du Togo, c'est le président de nous tous. Ça, ça porte atteinte à la sécurité présidentielle, même si on ne veut pas le dire. Mais ça fait partie des hommes de confiance de Fonia Singbe. Maintenant, l'autre chose que je voudrais faire aussi observer, mais je me rends régulièrement compte qu'en réalité, il n'y a pas d'amis. Fonia Singbe n'a pas d'amis. Vous imaginez? C'est-à-dire, au sein du système, il n'y a pas d'hommes forts. Parce que vous imaginez, Gina Katanga, 5 ans plus tôt, vous imaginez, chef d'état-major. Un général Félix Katanga. Ça veut dire qu'il était homme de confiance de Fonia Singbe. Et aujourd'hui, vous voyez comment ce qui se passe. Il n'est même plus militaire. Ou je me trompe?
Il n'est plus militaire.
Il n'est plus militaire. Si on lui avait prédit cela 5 ans plus tôt, il aurait peut-être giflé la personne. Parce que c'était des hommes de confiance de Fonia Singbe. C'était des hommes forts. Mais là, moi je me dis, il faut se poser la question de savoir ce qu'est le pouvoir en réalité. Et surtout lorsque le pouvoir dure. Que lorsque le pouvoir dure, le président n'a plus d'amis en réalité. Qu'aujourd'hui, il vous fait confiance. Ne croyez pas que vous êtes au même niveau. Ne vous croyez pas être au même niveau que le président. Et que rien même ne vous traverse. Vous vous trompez que vous êtes son ami. C'est faux. Vous êtes à ce niveau-là parce que vous jouez un rôle pour lui et pour le pays. Si vous êtes fidèle jusqu'à la fin, c'est comme on dit à celui qui sera fidèle jusqu'à la fin, il sera couronné. Ou celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, si vous êtes fidèle jusqu'à la fin, vous serez intouchable.
D'accord.
Maintenant, si vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas ami du président. Donc, pour conclure, le fond, il y a 5 ans arrêté. Je me rends, parce que j'apprends de la politique. Je suis un chroniqueur politique quand même. Il faut que je m'interroge régulièrement. Je me rends compte qu'en réalité, Fonia Singbe n'a pas d'amis. Personne ne doit se dire qu'il est homme de confiance de Fonia Singbe. Parce que du jour au lendemain, lorsque vous péchez, la justice s'occupera de vous.
D'accord, merci Firmin. Dans le chapitre de la justice, Tampa Express évoque le cas d'un citoyen condamné pour non-assistance en personne en danger. Le journal titre, Charles Wala Azumaro fait prisonnier pour omission de porter assistance à son épouse Yvonne Nyasimbe. Francisco Napokora, que doit-on retenir de ce dossier?
Oui, ce dossier, si vous vous souvenez, que je crois que c'était en février dernier, quand mademoiselle Yvonne, Yvonne Nyasimbe épouse Charles Wala Azumaro, et est décédé à la suite d'une crise. Et donc, à l'issue de cette crise, même bien avant le décès de la dame, M. Charles Azumaro a été gardé en vue et après le décès, transféré à la prison civile de Lomé. Et donc, dans cette affaire, on l'a associé avec leur marraine qui est Madame Kouachi, et une dame de 70 ans. Et donc, les deux sont, disons, accusés pour manquement ou bien omission de porter secours. Donc, ils sont à la prison depuis lors, mars, je crois, sans avocat, disons. Le procureur ne dit rien, donc ils sont là, ils se lèvent comme tout le monde et voilà. Donc c'est vraiment un peu triste quand on voit comment nous tous nous sommes exposés, hein, tous les Togolais, nous le disons tous les jours que au Togo le plateau technique est vide. Hein, c'est tout le monde qui est en danger, parce que quand vous lisez l'article, vous allez voir que la dame, elle a eu sa crise, elle a été transportée comme à Gué, à la clinique docteur Michel à un codom, c'est dans un premier temps, et après on la prend de la clinique Michel Codom pour amener au CHU campus et aller faire un scanner. Après le scanner, on la ramène à la clinique, on repart pour NIRM à la clinique Delhi, d'accord, et après on la ramène encore pour quelqu'un qui a fait un AVC. Imaginez un AVC. On déplace comme ça des malades tous les jours, hein, du centre en centre, parce que notre grand centre hospitalier, nos centres hospitaliers n'en disposent pas. Et finalement, il a été décidé, en attendant une évacuation sur l'Europe, de l'amener au CHU Tocoin. Et quand on connaît le CHU Tocoin, où beaucoup d'analyses également, il faut aller les faire dehors. Donc, malheureusement, la sœur Yvonne n'a pas pu résister, n'est-ce pas? Même, et elle s'en est allée, paix à son âme. Mais aujourd'hui, c'est son mari qui est mis en prison. Donc, pour homicide de porteur secours. L'homicide de porteur secours, est-ce qu'il a mal fait de l'amener à l'hôpital, et on ne sait pas où, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on met derrière homicide de porteur secours, et qu'en est-il pour la marraine qui vient au secours, et ensemble et on part. C'est comme on est là, quelque chose vous arrive à la maison, vous appelez une soeur ou bien un proche qui vient à votre secours, et finalement il devient complice dans l'affaire de décès, qui n'est pas une affaire de meurtre, de décès.
Alors, cette affaire repose encore une fois les failles de notre système de santé. Alors, l'article l'a retrouvé dans Tampa Express, n'est-ce pas?
Oui.
D'accord. Alors, ce mercredi, le président de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, Jean-Pierre Fabre, a demandé au gouvernement de revoir le découpage électoral avant les prochaines élections législatives, dont la date n'est toujours pas connue. Le parti évoque des disparités entre circonscriptions. Togo Matin titre, découpage électoral, Jean-Pierre Fabre ignore-t-il les autres critères? Découpage électoral, titre Le Canard indépendant, l'ANC pointe des disparités et incohérences grossières. La requête n'est pas inédite. L'opposition a toujours exigé ce redécoupage depuis quelques années. Mais Firmin Tekwabo, vu le mandat des députés qui expire, disons, à la fin de ce mois, ce qui induit l'organisation de nouvelles élections, est-ce qu'un nouveau redécoupage est faisable?
Bon, les élections auront lieu quand? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ces élections-là auront lieu encore cette année, ou en janvier, ou en février? Tout est question de temps. Si la requête de l'ANC pourrait être prise en compte, donc on aura besoin de temps. Peut-être si c'est dans 4 mois qu'on tiendra ces élections, je pense que le gouvernement tiendra ou prendra ça en considération. Sinon, ils sont dans leur rôle. Ce que je me dis, si cela va avoir une incidence positive sur leur participation aux futures élections. Et au cas où il n'y aurait pas un nouveau redécoupage, et s'ils participeraient ou non à ces futures élections, mais je me dis qu'ils ne vont pas commettre la même erreur de 2018. L'opposition a boycotté 2002, l'opposition a boycotté 2018, et aujourd'hui ces opposants qui s'étaient donnés au boycott en font les frais aujourd'hui. Donc qu'est-ce que l'ANC veut? L'ANC veut juste un certain assainissement du cadre électoral en quelque sorte, ou du processus électoral. C'est aussi légitime. C'est aussi légitime. Sauf que si cela pourrait avoir un certain impact positif, si ça pourrait, vous savez, pour le moment, ce n'est pas que je lance du discrédit ou je lance un certain doute sur les efforts de l'opposition, mais on voit les choses. Est-ce que l'opposition pourrait fondamentalement gagner les prochaines élections? Moi, je pense qu'il serait difficile à l'opposition. Je pense que les Jean-Pierre Fabre eux-mêmes le savent. qui serait difficile à l'opposition, à nos partis, aux partis politiques qui sont là aujourd'hui. Il leur sera difficile d'avoir une certaine majorité à l'Assemblée nationale ou d'avoir de la majorité au niveau des régionales. Parce que tout d'abord, les moyens, ils en manquent, ils n'ont pas les moyens. Moyens financiers, moyens en termes de ressources humaines. Pour couvrir tout le territoire. Est-ce qu'un seul parti a les moyens nécessaires pour couvrir tout le territoire? C'est pour cela que quand certains se disent qu'ils ont gagné la présidentielle de 2020, je me dis, pas que la Chine. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens? Parce que vous savez, le Togo est petit comme ça, mais le Togo, il faut assez de moyens pour pouvoir le couvrir. Ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, vous avez leur ministre, vous avez leur cadre, qui chaque week-end se positionnent dans leur localité respective. Ils y travaillent. Parce qu'ils ont les moyens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition, par exemple, quand vous prenez l'ANC, pour le moment, il n'est pas encore en coalition avec qui que ce soit. À moins que je me trompe. Donc, l'ANC seul, est-ce que l'ANC dispose aujourd'hui de moyens? L'ANC a eu 4% à la prochaine. C'était la première fois que l'ANC avait participé à une élection présidentielle. Donc, 4%. Est-ce que l'ANC aujourd'hui peut disposer d'assez de moyens pour couvrir tout le territoire, du nord au sud? Nous avons des milliers de villages. Est-ce que l'ANC pourrait avoir des représentants dans ces localités-là? Est-ce que l'ANC régulièrement se rend dans ces localités-là pour commencer par sensibiliser, pour faire une certaine pré-campagne? C'est une question de... Mais on peut faire un découpage, on peut tout refaire. Mais est-ce que l'ANC peut gagner? Moi, je me dis, à ce niveau, moi, je me dis, il serait difficile de gagner.
D'accord. Alors, Tampa Express évoque aussi les prochaines législatives à travers le titre « Le Togo est-il en retard dans l'organisation des législatives de 2023 ?» Alors, Francisco Napokora, cette question, beaucoup de personnes se la posent. Qu'en est-il exactement?
Oui, je vais un peu rebondir sur, le papier de ANC qui a circulé.
D'accord.
Et pour demander un peu de sérieux dans le travail des partis politiques. Parce que nous avons regardé de près, nous sommes en train de faire un travail là-dessus que nous allons publier dans notre numéro, 47, puisque ce travail, Tampa Express a déjà fait un travail sur le découpage électoral pour une représentativité de la population. Et donc, quand nous prenons déjà le tableau 2 et le graphique, on se rend compte que on nous fait 44% plus 36%, et pour dire que ça fait 100%. D'accord? On peut avoir cette erreur sur le graphique, mais quand même pas dans le tableau. Puisque ça ne fait pas 100%. Et puis, la population seule ne fait pas le découpage électoral. Il faut un travail synthétique pour introduire, n'est-ce pas, d'autres paramètres avant d'aller, n'est-ce pas, et conclu. D'accord. Donc, ils peuvent trouver cet article-là. On invite les lecteurs à aller chercher le numéro 35. Ça doit être du mois de mai 2023, parce que ce dossier a été largement documenté, puisque c'est avec des éléments, des statistiques à l'appui, que nous avons sorti cet article-là. Donc, pour si le Togo est en retard, et vous savez, aujourd'hui, dans la tête de tous les Togolais, du moins les politiques, c'est que avant le 31 décembre, le Togo doit avoir une nouvelle
assemblée
nationale recomposée. Et voilà que nous sommes à pratiquement moins de 2 mois, peut-être 2 semaines, et rien n'est fait, et on est en train d'aller vers, ce que d'aucuns peuvent appeler un vide, mais on vous dira que les tests prévoient que l'Assemblée reste en place jusqu'à,
la prochaine
élection. Mais c'est une incongruité qui finalement s'est étendue à toutes les institutions de la République qui sont illégales, toutes ces institutions. Et normalement, en termes de droit, moi je n'ai pas trop fait le droit, mais firmé dedans, il y a des actes que certaines institutions portent qu'on peut, disons, qui peuvent être frappés de nullité demain, parce que s'il est prévu que le chef de l'État peut rester en fonction jusqu'à la prochaine élection, cela n'est pas automatique pour toutes les institutions de la République. Donc il est temps que les politiques se mettent en évidence. Si on dit on veut faire la démocratie, il faut qu'on respecte les règles. Mais nous nous disons organiser une élection législative en 2024 et après 2024 on aura une autre élection, laquelle
la présidentielle. La présidentielle, c'est en 2025.
En 2025 et les locales, nous disons qu'il faut, si on a déjà violé ce test, pour que l'Assemblée nationale actuelle rentre en janvier, il faut qu'on force les choses pour faire une élection générale en 2025. Qu'on fasse une élection générale en 2025, on aura élection locale, élection législative et élection présidentielle. Cela se fait dans beaucoup de pays, et que on puisse en une année faire des élections et passer 4 ans, n'est-ce pas, pour reconstruire le pays, quand on sait tout ce que chaque élection disons mobilise comme moyen et financier, qui finalement est devenu un business électoral.
Fimette Kou, beaucoup se demandent pourquoi jusqu'ici le chronogramme n'est pas établi pour ces élections législatives. Oui, allez-y.
La réponse serait avec le président de la République. Moi, je me dis que c'est le président de la République qui donne. Parce que le président du Togo aussi dit. Et puisque la loi ne force pas le faire, il y a une disposition constitutionnelle. L'Assemblée actuelle reste en place jusqu'à la nouvelle législature. Donc peut-être le président va profiter de ce temps qu'il lui a accordé pour régler un certain nombre de problèmes. Et moi je me dis que tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la manière dont le gouvernement a été remanié, tout ce qui est avec cette histoire de commission parlementaire Covid, moi je me dis que le président veut voir clair dans un certain nombre de choses. Moi je pense que c'est beaucoup plus politique, la raison est beaucoup plus politique au niveau du président de la République. D'accord. Et voir peut-être un peu plus clair au niveau de son gouvernement et au niveau des futurs députés.
D'accord.
Et au niveau du prochain gouvernement, parce que peut-être que certains ministres seront encore entachés avec cette commission-là. Parce que quand on va écouter les gens, le rapport qui lui sera transmis, on va lui dire, mais ce ministre peut-être il y a des sous qui sont avec lui, peut-être il n'a pas été honnête dans la gestion de son fonds Covid, peut-être il n'a pas fait ça. Si ce ministre-là, il va falloir le reconduire juste au lendemain des législatives, il saura quoi? Il saura quoi faire? Je me dis, il veut voir un peu ceux-là, il veut les connaître un peu, ceux-là qui avec qui il travaille depuis 2020 jusqu'à maintenant. Qui ont eu à gérer la crise Covid avec lui, avec toute cette vie sèche que notre pays traversait derrière temps, il veut les connaître, il veut connaître un peu leur nature. Sinon, peut-être il n'y aurait jamais eu cette commission parlementaire. Donc, moi, je me dis, il veut voir clair. C'est lui qui a la clé, en fait. S'il dit allez, moi, je me dis même que ce n'est même pas une question de fond. Peut-être c'est une question beaucoup plus politique. Le président veut voir clair. C'est mon analyse. Je peux me tromper.
C'est votre avis. D'accord. Puisque.
Non, mais si c'est maintenant que le chef de l'État veut voir clair par rapport à ses collaborateurs, je dis qu'il y a des enquêtes et de moralité qui se font avant de nommer des gens à des postes. Et attendez, les enquêtes de moralité, c'est des enquêtes de gendarmerie. Pour être même fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, on ira regarder jusqu'à voir si votre papa était abloré ou pas. Et ça risque de vous porter préjudice. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous dis ce qui se fait. Donc, ce n'est pas... Le chef de l'État ne nomme pas des gens à des postes seulement parce qu'on est venu lui proposer. Il a ses moyens pour savoir qui est cette personne, quel est son passé, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Mais ce que nous constatons malheureusement, c'est, peut-être pour paraphraser nos amis de Liberté, on fait peut-être la promotion des gens qui viennent nuire le pays. Des gens qui viennent nuire dangereusement le pays. Et aujourd'hui, dans un de nos prochains titres, c'est le Togo gravement endeuillé par des crimes économiques.
D'accord.
Quand vous voyez la physionomie des Togolais aujourd'hui, tout le monde est triste. Les banques n'ont pas l'argent, mais les gens ont l'argent dans leur maison et en font des dépenses.
Merci.
On peut avoir fait des enquêtes de molarité sur vous.
Oui,
nous, mais en fonction, vous pouvez avoir commettre des erreurs, des crimes ou des délits. Et vous voyez tout ce qui s'est passé avec le fonds Covid. Vous voyez comment le rapport a été rédigé. Et si on demande encore ce qu'on mette en place cette commission, c'est parce que peut-être on se dit qu'il y a des détails qui échappent.
Voilà.
Pardon, il y a des détails qui échappent. On veut voir clair dans cette gestion-là, ceux-là qui ont eu à gérer ce fonds-là, qui sont-ils en réalité.
D'accord, merci à vous tous. Nous marquons une pause et on revient.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous voilà de retour pour la suite de cette émission. Le moment qui va suivre est réservé aux auditeurs. Nous avons déjà un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonjour.
Bonjour Francisco, comment ça va, Didier?
Oui,
bonjour,
monsieur Didier.
Oui, bonjour, monsieur Agbo.
Bonjour.
Monsieur Agbo, je vais poser une question sur le découpage. En tant que grand journaliste du Togo, là, quelle est votre analyse sur le découpage qu'on nous fait au Togo? Vous savez bien que le grand Lomé a déjà fait du tiers du corps électoral et qu'on a que 10 députés. Quand vous allez au Nord, vous trouvez que les gens ont plus, en proportion de la population, ils ont plus de députés que les gens du Sud. Est-ce que c'est normal? Et puis vous êtes parti sur les partis politiques. Il faut être sûr de gagner les élections avant d'y aller. Même si on gagne un seul député, ça suffit. C'est pas la peine d'aller. Dieu nous dit que bon, il faut gagner les élections. Il faut être sûr de gagner les élections avant d'y aller. Et puis je voulais vous poser aussi une question sur le procès. Ce qui me fait rire chaque fois là, hein, quand j'écoute le procès, on analyse le procès là. Le général Katanga là, il fut un temps où on a vu ce monsieur tirer sur, bon, il détient d'une voiture tirer sur un mécanicien là. Même vous-même, finalement, vous avez bien le qualifier tellement comme s'il était un ange. Aujourd'hui, tout le monde est fait sur lui. Donc, c'est comme vive le général, vive le président. Quand le président est fort aujourd'hui, on dit qu'il est fort. Si c'est le général qui est fort demain, on dit que c'est lui qui est fort. Merci beaucoup, M. Firmin.
Merci, M. Didier. Allô? Allô? 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Allô?
Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour, M. Firmin.
Oui, c'est monsieur.
Benoît Dagor.
D'accord, on vous écoute.
Oui, je dis bon prix à tous les musulmans.
Merci.
Moi, j'aimerais parler des élections. Le chef de l'État, le 31 décembre, le chef de l'État, sur New York TV, a parlé que l'année 2023 serait une année électorale. Aussi, en 2022, lorsque la rentrée, ils ont développé un fonds pour aider les élèves à la rentrée, le chef de l'État, le 31 décembre 2022, il nous a dit qu'il s'est excusé. Et arrivé aujourd'hui aussi en 2023, est-ce que le chef de l'État, Paul Kagame Simbé, nous dira et nous présentera aussi une fois encore ses excuses pour ne pas avoir tenu sa parole pour les élections législatives et régionales? On dit, comme l'a dit Jésus pour terminer là-bas, c'est pas ce qu'on dit de toi qui te rend impur, mais c'est ce qui sort de ta bouche qui te rendra impur. Bonne journée.
D'accord, merci, bonne journée à vous. Allô? Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur?
C'est Comi.
Monsieur Comi, on vous écoute.
Oui, je disais quelque chose la dernière fois, le DP de Tampa n'était pas d'accord, mais ce matin, je veux encore le réitérer pour on peut améliorer les choses. C'était qu'on devait fermer la faculté de droit à l'université. Parce que si on a des diplômés qui rendent des jugements de la sorte, on préférait que ces jugements plutôt sortent du couvent. Comme ça, tout le monde est d'accord sur le verdict. Mais si ça sort d'une juridiction, la proposition se confirme. La faculté de droit pour ne pas envoyer les enfants en erreur. Sur le second sujet, je veux bien prendre le compte-pied parfait de l'analyse de Firmin sur les moyens que l'opposition n'a pas. Pourquoi je le dis? Nathaniel Olympio, ou bien un certain Olympio, avait des moyens et c'est parce qu'il a questionné le fichier électoral le pouvoir n'était pas d'accord, il n'est plus présentement au pays. Je donne un autre exemple, la gestion des contentieux. Après les proclamations, on ne veut pas donner le vrai résultat. Donc, faute de ça, on contraint les acteurs à l'exil. Autre chose encore, tout récemment, lorsque Pascal Bojona voulait participer à la communale, on va dire que Pascal Bojona n'a pas de moyens. Allô?
Ah oui, on vous écoute.
Voilà. Ça voudra dire que ce n'est pas une question de moyens. Pour aller plus loin, on interdit, à, par exemple, ANC, DMP, FDR, de faire de simples réunions, voire même à des sociétés civiles de se rencontrer. Vous voyez, quand il y a des obstructions comme ça, est-ce qu'on va parler encore de questions de moyens? Je conclue en disant que oui, le pouvoir aime plutôt organiser des élections sur fond de crise, de disparité, de frustration, pour pouvoir les gagner. Et si on veut aller en démocratie, construire une démocratie, c'est plutôt dénoncer ces frustrations que le pouvoir crée là pour donner la chance à tout le monde. Et si quelqu'un a les moyens, ça peut gagner. Si quelqu'un a un programme, il peut gagner. Mais dire que c'est faute de moyens que l'opposition ne gagne pas, je le dis non.
D'accord. Merci à vous, M. Komi. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, M. Gado.
M. Gado, on vous écoute.
Oui, mais ce n'est pas un cours d'histoire quand même. Hein. Mm. Bon, monsieur, moi, je voudrais demander si le président Faure a plus de chance que son papa Yaya Denma en matière de gouvernance. Pourquoi je dis cela? Le feu général Yaya Denma a arrêté en prisonnier des ministres dans ce pays. Si je comprends bien, tous les ministres du président Faure Gnassingbé sont des saints, ils n'ont jamais commis des erreurs. Merci, bonne journée.
Monsieur, bonne journée, M. Gado. Allô? 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 Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, salut, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Oui, je vais très bien chez vous.
Oui, ça va, on vous écoute.
Oui, c'est Sylvain.
Monsieur Sylvain, on vous écoute.
Et pour cette histoire de congé de détente, moi je l'ai détesté au début. Il faut faire travailler nos enfants. Les enfants ne veulent rien faire. Je suis d'accord avec Firmin. Et nos cultures. Il faut laisser la culture occidentale pour s'intéresser à notre culture. Pourquoi encore ces congés de détente? Quand vous parlez, les gens disent que ça se passe dans des pays développés. Est-ce que nous sommes déjà développés? Il faut que M. Kokoroko revoie cette copie-là. Et pour le procès, Pantouba, c'était pour nous divertir. Le pourquoi on a condamné ces messieurs, le pourquoi ce crime a été orchestré, on ne l'a pas dit. Et puis on condamne les gens comme ça, et puis les Togolais ne savent rien. Le Madjouba, c'est un Togolais. Franchement, il faut qu'on revoie certaines choses pour qu'on puisse être à l'aise chez nous. Merci.
D'accord, merci M. Sylvain. Allô? 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 Le dernier auditeur. Allô? Allô? Je crois qu'il n'est pas en ligne. Oui, allô?
Oui, bonsoir.
Oui, oui. Vous êtes en direct?
Oui, c'est en reste à la parole.
D'accord. On vous écoute.
Oui, sur la question du découpage électoral, tu n'as pas compris pourquoi que, quand la question est posée, M. Agbo, Tania a parlé de la chance de l'opposition à gagner ou ne pas gagner. On ne peut pas avoir un découpage électoral aussi déséquilibré. Aujourd'hui, à Boué, Niger, qui est toute une préfecture, n'est pas une circonscription électorale. C'est de ça qu'il faut parler. Au lieu de venir par dire, bon, l'opposition n'a pas. Lui n'a pas qualité, excusez-moi, à venir dire si quelqu'un peut gagner une élection ou ne peut pas gagner une élection.
Il a juste donné son avis.
Et quand on dit que le pouvoir a les moyens, il travaille avec quels moyens? Moi, tout simplement, ce que je pense, le pouvoir en place, si elle était aussi rassurée, comme veut démontrer M. Agbo, il devait déjà organiser ces élections-là. Aujourd'hui, on n'a même pas le chronogramme. Alors que prenez les législatives passées, vous allez voir la façon dont ils étaient pressés à les organiser, parce qu'ils ont vu que l'opposition était désorganisés, qui avaient des problèmes internes. Ils ont organisé rapidement cette élection législative et dans la foulée, ils ont aussi organisé les élections locales. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, il n'y a même pas de programme, il n'y a rien. Et puis on nous dit, oui, bon, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais écoutez, il y a eu toujours des scandales dans ce pays et on a toujours organisé des élections. Et toujours ces scandales-là, les gens ont des problèmes tout simplement lorsque ils ont des ambitions sur le processus présidentiel. Pour le reste, écoutez, on a toujours connu des scandales et les gens ne sont jamais inquiétés.
Merci. D'accord, merci à vous. C'est donc le dernier auditeur. Nous revenons, on fait un tour de table. Francisco Napokoura, vous avez écouté un peu les auditeurs. Est-ce que vous avez quelques réactions?
Il y a un auditeur qui m'a posé une question, mais je n'ai pas saisi. Mm. Bon, en fait, dans l'ensemble, c'est que les auditeurs, ils ont fait des appréciations sur... disons nos commentaires et ont apporté leur contribution. Effectivement, on ne va pas continuer de dire que le pouvoir RPT unir ou unir c'est certain, mais continue de gagner les élections parce qu'ils roulent sur les moyens de l'État ou même si parfois c'est des individus qu'on dise que c'est eux qui ont financé ces individus n'ont pas des champs de cacao ni de minerais, même s'ils ont les minerais appartiennent à l'État. Donc c'est toujours avec l'argent du pauvre contribuable. Mais malgré ça, les processus ne vont jamais au bout en toute clarté. Donc il faut toujours court-circuiter à un moment donné pour après déclarer des résultats. Ce que nous allons demander au chef de l'État, nous le demandons après les élections de 2020, nous lui demandons que les prochaines élections sont des véritables textes pour lui, pour une véritable transition au Togo. Il faut ouvrir les élections à une compétition, pas à une partisanerie, à une compétition nationale pour que les gens qui seront élus aient la légitimité. Hein, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que les moyens, les gens l'ont, mais ils n'arrivent pas à gagner. Donc, permettez aussi que d'autres essaient pour que le Togo commence par faire ses pas.
D'accord.
Il y a quelqu'un qui a dit que je n'ai pas qualité de donner mon point de vue, monsieur journaliste. C'est ma manière de voir les choses. Donc, permettez que je critique et que je donne mon point de vue. Je pense que c'est la démocratie. Tout le monde n'est pas, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Je ne veux pas être d'accord avec tout le monde non plus. C'est comme ça la démocratie. C'est ça, cette richesse que la démocratie nous a donnée. Vous savez, je vais dire seulement deux petites choses. Première petite chose, c'est que par rapport à l'opposition, si l'opposition n'a toujours pas gagné, surtout le fauteuil présidentiel, ceux qui connaissent l'histoire du Togo vont vous raconter un certain nombre de choses en ce qui concerne les erreurs dans lesquelles l'opposition a toujours végété. L'opposition, la plupart des raisons se situent au niveau de l'opposition. Et le pouvoir a toujours surfé sur les erreurs de l'opposition. Par exemple, en 2018, qu'est-ce que le pouvoir a fait et que l'opposition a boycotté les législatives? On leur avait donné 8-8 à la CENI à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition s'est toujours fourrée dans une, dans une certaine puérilité politique une certaine puérilité politique sans stratégie et le pouvoir a toujours surfé sur cela. Et aussi, à cela s'ajoute la question de moyens. Si vous n'avez pas les moyens, il vous sera difficile d'aller très loin en politique. Bien sûr, ceux qui dirigent, ils ont les moyens parce qu'ils sont payés, donc ils ont l'argent. Mais lorsqu'on vous donne l'opportunité de venir aussi, mais vous tirez une balle dans vos vos jambes, ainsi de suite, et vous n'avancez pas. Le problème, ce n'est pas seulement au niveau du pouvoir, mais seulement au niveau de l'opposition. La démocratie, elle a besoin de l'opposition, elle a besoin du pouvoir, elle a besoin de la presse, elle a besoin de la société civile. D'accord. Si vous ne jouez pas normalement votre partition, celui-là qui est de l'autre côté, s'il joue bien sa partition, il va vous dominer.
D'accord.
C'est ça, au fait. Maintenant, par rapport au découpage électoral, je pense que les politiques l'apprécient beaucoup mieux. Moi, ce n'est pas que je soutiens quelqu'un de découpage électoral. Moi, je ne suis pas politicien. Je n'ai aucun avantage. Non, mais ce que je dis, ceux-là qui ont accepté le découpage électoral sont des politiciens. Donc, qui prennent leur responsabilité, qui dénoncent, et que le gouvernement aussi prenne en considération leurs préoccupations.
D'accord, merci. Francisco Napokoura, votre carton pour sortir de cette émission.
Oh, est-ce que, cher carton, juste un appel au ministre des transports publics, pour le cas des frontières qui sont fermées, il faut aller vite, parce que quand on voit des colonnes de camions de Saint-Cassé à Cara, et qu'on dit que le port autonome de l'homme ne peut plus desservir Little Land, c'est excessivement grave pour toute l'économie nationale.
D'accord. Fimette Oku.
Mon carton, il est vert. Et c'est à la diplomatie togolaise.
D'accord. Merci. Merci à vous, Francisco Napokoura du journal Tampa Express, Fimette Oku, Agbo, journaliste et chroniqueur. La technique a été assurée par Thomas Datevi, mise en ligne Jero Akucha. Je suis Fousseni Saïbou. À très bientôt.
C'est pas de la sensation, c'est quand il m'apprête. Tomi dogbina miso radio canal fm dieg bifida pe wetriwe de kabin kike wogon le piakpe vekudo wivoto ame mira kanzu kwa mbinya jojo tana milike so ke vaya togobese ohome noto abegodo tongon sokudo egakakan ne epiakpe ve bakudo wivone abe edodo nti all music all eni dodo de ke ele ebe jojo nkrodi pe 3 ans epi wigon meto gbobe na imore nu na nyiga ke voa epi ame amon popo suwa sibena waten wo leke be no no merci do no fion togan mustafa mi juyawa edo jesi enu ve vede ke le gble domena afro